Alors on passe la parole à Édouard Martin, qui non seulement a étudié ces questions, mais a été un acteur central, comme vous le savez, au moment de Florange. Et donc, on lui passe la parole pour un quart d'heure, 20 minutes.
Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je ne veux pas vous abreuver de chiffres. Je pense que les experts vous ont donné... Pardon ?
Non, il n'a pas de PowerPoint, ça va.
Il est au micro, là.
Ah oui, le micro. Oui, oui. Oh là là, pardon.
Très bien. Merci.
Mais effectivement, je vais, sans avoir une vision exhaustive de ce qui se fait en France, de ce qui s'est fait, de ce qui se fait ailleurs, il y a certains chiffres qui ont été donnés, donc ça vous donne un peu une idée, déjà, et du qualitatif et du quantitatif des uns et des autres, mais quand même quelques pistes de réflexion, et notamment des choses que moi j'ai vécues. Alors effectivement, même si les restructurations n'ont pas démarré dans les années 70-19 de son prénom, mais il est vrai que dans le secteur dans lequel j'ai travaillé, la sidérurgie, c'est là où on a vraiment eu la plus grosse crise, la plus grosse restructuration dans un pays au moment du premier choc pétrolier. Et donc effectivement, ça a beaucoup accéléré les choses. Mais les gouvernements successifs n'ont pas appris ou n'ont pas voulu apprendre ou ils ont laissé faire, parce que ce qui démontre aujourd'hui, notamment dans le secteur industriel, la crise de l'industrie et de la réindustrialisation, c'est qu'il n'y a pas de politique industrielle en France depuis 40 ans, et j'ai même envie de dire, même pas en Europe non plus. J'y viendrai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a été un échec? L'échec, effectivement, c'est que depuis les années 70, en tout cas dans les grands secteurs industriels, la seule politique qui a été menée, c'est de dire, entre guillemets, comment on limite la casse sociale, effectivement, à travers beaucoup d'argent public pour faire dans la sidérurgie. On partait en retraite à 50 ans, hein, quand même. Vous imaginez, ça ferait 4 ans jusqu'à la retraite. Moi. Je n'ose même pas l'imaginer, mais bon, bref. Mais on a juste essayé de limiter la casse. Il n'y a pas eu de prospective ou très peu de prospective. Dans certains territoires, dans certains départements, effectivement, et ça a été le rôle des organisations syndicales qui a été primordial et central, ils ont eu aussi, je ne dis pas qu'ailleurs ils ne l'ont pas, mais ils ont porté aussi comme revendication, pas uniquement la limitation de la casse sociale, mais comment on retisse un bassin d'emploi dans le territoire. Si on prend l'exemple des ouillères de Lorraine, les syndicalistes mineurs de charbon se sont battus pour avoir une réindustrialisation. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait tout compris, mais néanmoins, ça a marché, puisque, à l'époque, l'État pouvait encore impulser certaines choses. On a vu l'arrivée de producteurs d'automobiles. Je pense à Citroën, je pense à Renault, et en dernier, la Smart, notamment à Sarreguemines. Donc, la crainte que j'ai, c'est que la mono-industrie, notamment dans une région comme la Lorraine, qui était tournée autour du charbon et de l'acier, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est dans une mono-industrie d'automobile, mais disons que la part d'activité, le PIB, le nombre d'emplois en Lorraine sur l'automobile est très conséquent. Et c'est là où je viens sur les anticipations. Là, le besoin urgent de dire qu'il faut peut-être qu'on se mette autour d'une table. Alors, c'est qui le « on » ? Évidemment, c'est les décideurs, les patrons, les organisations syndicales, les territoires, évidemment, l'État, sur dire quelles sont les transitions économiques et technologiques qui vont s'imposer à nous. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que le véhicule diesel, c'est terminé. En tout cas, la fin est programmée. Alors, est-ce que c'est à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans? Mais il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Et c'est quoi la politique industrielle qui est faite aujourd'hui, notamment par le monde de l'automobile? Ben, leur seule logique, c'est d'envoyer les organisations syndicales auprès des élus que nous sommes pour éviter de prendre des mesures qui viennent trop les contraindre et qui viennent perturber leur marché. Au lieu de dire, on va peut-être regarder comment on développe des moyens pour que demain, le véhicule électrique propre, et pas, la pile à combustible, ça soit uniquement produite en Chine ou au Japon ou ailleurs. Non, vous voyez, c'est... Mais alors, pour venir sur... ça, c'est, pour moi, c'est un échec. Il n'y a pas d'anticipation. Alors qu'aujourd'hui... sur la transition écologique, la transition énergétique, voilà, c'est tout le monde y va, tout le monde te donne la main, enfin en tout cas ceux qui ont envie d'y croire, ceux qui ont envie de bouger. On avait ce matin un débat commun sur l'entreprise 4.0 en Allemagne. Les Allemands, depuis 10 ans, ils ont compris qu'il y avait un tournant important à prendre, et s'ils voulaient rester leader, eh bien, ils ont organisé les conditions de se mettre d'accord sur une stratégie industrielle, sur une stratégie économique. Pouvoir public, patronat, syndicat. Ils se sont engueulés, ils se sont crêpés le chignon. Mais une fois qu'ils sont sortis de là-dedans, ils sont sortis avec une vraie stratégie. Résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, le patronat allemand pèse énormément parce que lorsque vous voulez avoir des fonds européens, vous les avez seulement sur appel à projet, et donc les Allemands sont très en avance là-dessus. Bizarrement, depuis 2014, la nouvelle Commission européenne, le commissaire au numérique, bizarrement, il s'appelle M. Oettinger, bizarrement, il est allemand, et bizarrement, IG Metall et le DGB allemand a accru de manière assez forte sa présence syndicale à Bruxelles, parce que c'est le pays aussi des lobbyistes. Et le lobbying, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Donc, ils viennent dire, voilà, et c'est là-dessus. Alors, ça c'est les échecs. Donc, le manque d'anticipation, et parce qu'aujourd'hui, la loi et la structure des outils que nous avons, législatifs, les moyens de négociation, ne sont pas adaptés. Non seulement ils ne sont pas adaptés, j'y reviendrai après, c'est que la loi, les ordonnances de travail, font tout pour... affaiblir encore un peu plus cette possibilité-là. Lorsque vous faites en sorte, par exemple, de remettre en cause le droit, le recours à l'expert, on est en train de limiter aujourd'hui la possibilité pour les CE, les représentants du personnel, de recourir à l'expert. Vous savez que même si dans le monde du travail, le monde de l'industrie, le monde des usines, le monde des entreprises, on connaît très bien ce qu'on fait, on connaît parfaitement notre produit, l'échelle de valeur, etc., mais on n'a pas cette capacité. Nous ne sommes pas des experts. Nous avons besoin d'avoir des experts à côté de nous qui, non seulement nous disent est-ce que les comptes sont bons ou pas, mais quelle est la stratégie, quels sont les dangers, les concurrences internationales, mondiales, etc., de manière à ce que nous, on puisse en faire un véritable outil syndical d'anticipation et de réaction. Florange, puisque je viens de Florange, et moi, je suis toujours atterré de voir, d'entendre que ce sont ceux qui ne connaissent rien de Florange qui en parlent le plus. C'est extraordinaire. Ça, c'est comme les frites McCain. Voilà, c'est la même chose. Alors, Florange est-il un succès ou un échec ? Moi, j'ai envie de dire, c'est un mi-succès, un mi-échec. Mais si on repart dès le départ, depuis 2011, lorsque Mittal annonce la fermeture des hauts fourneaux, et il l'annonce de manière dite provisoire. Et effectivement, il nous rassurait en disant, rassurez-vous, il n'y aura pas de plan social. Il n'y aura pas de plan social. Et donc, les gens étaient plutôt rassurés parce que, on a bénéficié de chômage partiel, etc. Mais on le sentait bien, puisque justement, on avait ce regard, ce droit à l'expertise qui nous disait attention au danger, parce qu'il y a une stratégie derrière tout ça. C'est parce que nous sommes en période électorale, et une fois le nouveau président élu, il annoncera la fermeture définitive de Haut-Fourneaux. C'est pour ça qu'on a pris les devants. Et je vous passe les détails. Résultat des courses. Là où il devait avoir quasiment... entre, parce qu'on parle des 629 travailleurs de ArcelorMittal, on ne parle pas des sous-traitants, on ne parle pas de la filiale à côté. C'était quasiment 900 suppressions d'emplois. 900 suppressions d'emplois. Mittal disait, je n'investirai pas un centime dans l'entreprise de Florange. En plus, il garde, puisque lorsque Mittal a racheté Arcelor, il a acheté aussi les centres de recherche et d'innovation. Donc, il avait la maîtrise des brevets, de la recherche, qu'il a pu dispatcher, comme bon lui semblait, à travers le monde, partout où il avait des usines. Eh bien, nous avons réussi, in fine, à avoir quoi ? Avoir 220 millions d'euros d'investissement stratégique, avoir la garantie qu'il n'y ait pas un seul licenciement. Il n'y a pas eu un seul licenciement sec. Et alors là je fais une parenthèse, il n'y a pas eu de licenciement sec auprès des travailleurs du groupe ArcelorMittal. Les sous-traitants ont été les victimes collatérales de cette décision, parce que malheureusement, hélas, les organisations syndicales du groupe ArcelorMittal n'avaient pas compétence à négocier la même chose, même si on a essayé. Et puis, parce que c'est aussi un autre élément de garder cette compétence, ce savoir-faire, et un outil de réindustrialisation. Nous savions depuis toujours, depuis qu'on travaille dans cette boîte-là, l'importance de maîtriser l'innovation et la recherche. Comme la recherche qui appartenait à Arcelor à l'époque à Usinor, donc public, est devenue privée, qui appartient à Mittal, nous avons obtenu la création d'un centre public de recherche et d'innovation. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'effectivement, au moment où il y avait le gouvernement qui se tapait sur la figure avec Mittal en disant « tu fermes pas », etc., et il y avait la menace de nationalisation brandie par Arnaud Montebourg, Mittal a dit « ok, très bien, vous pourrez avoir mon usine, mais vous n'aurez pas mes brevets ». Donc d'où l'importance d'avoir la maîtrise de l'innovation. Et ça, il y a eu la création d'un centre public de recherche qui s'appelle MetaFench avec un investissement de départ de 50 millions d'euros. Voilà, succès, pas succès, à vous de vous faire une idée, mais sachez quand même qu'il y a encore plus de 2200 travailleurs qui bossent à Florange, contrairement à ceux qui pensent qu'il n'y a plus rien à Florange. Et puis Florange a aussi eu des effets positifs, parce que, comme vous le disiez, nous savions très bien l'importance d'avoir des industries comme celle-ci dans nos territoires, parce qu'une fois qu'elles disparaissent, ce n'est pas simplement une usine qui disparaît, ce n'est pas simplement un lieu où on produit un bien qui disparaît, c'est toute la richesse du territoire qui disparaît. Et puis, il n'y avait plus rien derrière. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, on a eu aussi la pression des salariés qui nous disaient, de toute façon, on n'y croit pas, battez-vous pour le chèque. Obtenez-nous le plus gros chèque possible. Mais moi, je suis désolé, je me suis jamais engagé, ni syndicalement, ni politiquement, pour obtenir des chèques. Mais ça, il faut avoir le courage de le dire aux salariés quand ils sont là, sur le piquet de grève. Hein. Je leur dis, si vous voulez le chèque, ça sera sans nous. Et on s'est battu pour sauvegarder l'emploi, on s'est battu pour sauvegarder l'outil, on s'est battu pour sauvegarder cette entreprise qui crée du lien social. C'est grâce à ces entreprises qu'on a des routes, des écoles, des hôpitaux, c'est tout ça qui fait la richesse d'un territoire. Et on a aussi obtenu, puisqu'on le voulait, et on savait le danger de ces grandes multinationales qui n'ont que faire des territoires, qui n'ont que faire du pays ou quoi que ce soit, leur seul territoire c'est là où ils gagnent le plus, c'est la fameuse loi Florange. Alors même s'il a été vidé de son sens, elle a quand même eu des effets positifs. KME à JV, qui était une entreprise qui appartenait à une entreprise finlandaise, il me semble, c'était finlandais, qui voulait fermer. Les salariés de JV se sont battus pour faire appliquer la loi Florange. Et ils ont obtenu, parce que l'ancien actionnaire voulait fermer, ils ont obtenu effectivement que l'ancien actionnaire qui voulait fermer parce qu'il disait « cette entreprise n'est plus stratégique pour moi, donc si elle n'est plus stratégique pour vous, vous pouvez accepter que quelqu'un vienne la racheter ». Eh bien, elle a été rachetée. Alors évidemment, ils n'ont pas sauvé tous les emplois, mais ils ont quand même réussi à sauvegarder l'essentiel. Paraît-il que ça ne va pas trop mal, mais ça ne va pas trop bien. Mais voilà, tout ça pour vous dire que là aussi, ce sont des éléments qui peuvent aider et qui peuvent fonctionner. Comment que ça se passe ailleurs? Pendant la grande crise de 2008, vous l'avez montré dans vos différents tableaux, l'Allemagne a procédé de manière différente. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils se sont dotés d'un nouvel outil, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont permis aux entreprises de mettre leur personnel au chômage partiel pendant 2 ans. Alors évidemment, on travaille moins, on gagne moins, mais l'idée c'était quoi? L'idée de ces entreprises, de ces grands bastions industriels, et pas simplement, c'est de dire il faut que je puisse être en capacité de gagner, de garder mes compétences et mes savoir-faire. Il ne s'agit pas de laisser partir ses savoir-faire, ses compétences. Alors qu'à l'inverse, en France, dès les premiers coups difficiles, eh bien, on se sépare des personnels. Et évidemment, au préalable, on fait un appel au volontariat. Bien souvent, ce sont les plus qualifiés qui partent. Et là, puisque dans l'accord de Florange, il est stipulé qu'éventuellement, l'usine pourrait redémarrer en 2018, on est en train de regarder. Mais si tel était le cas, parce que le marché aujourd'hui est revenu, les carnets de commandes sont blindés. Ils ne savent plus où mettre de la tête pour répondre aux besoins du marché. Mais si demain on devait redémarrer l'usine, eh bien on ne pourrait pas. Parce qu'on a perdu toutes ces compétences. Les compétences nécessaires à redémarrer. Donc, parce qu'on est dans des métiers très spécifiques où on n'apprend pas ce métier-là dans les écoles. C'est sur le terrain qu'on apprend. Et puis, ailleurs, en Italie aussi, la Casa d'Integrazione, Fiat l'a longtemps utilisé. Il y a aussi le courage politique. Renzi a osé nationaliser le site d'Ilva en Italie, alors qu'on voulait le fermer. Courage que n'a pas eu François Hollande avec Florange. Voilà. Donc, et puis, il n'y a pas les foudres de Bruxelles qui lui sont tombées dessus en disant « Va dire rétro Satanas, rendez cette entreprise au privé ». Non, elle est toujours nationalisée d'ailleurs. C'est l'État italien qui est en train de vendre l'usine à Mittal. Bon, ça les regarde. Ça, c'est leur affaire, ça les regarde. Mais bon, tout ça pour vous dire. Alors, quelles sont aujourd'hui, de mon point de vue, les recommandations à faire? Et notamment, là, une des premières recommandations que je me permettrai de faire, c'est surtout à l'Europe. L'Europe doit revoir ses règles de la concurrence internationale. Je veux dire, on ne peut pas continuer aujourd'hui à gérer l'économie qui est devenue hyper mondialisée, globalisée, avec un regard uniquement et seulement européen. Ça, c'est pas possible. Et ça, on le demande depuis que je suis arrivé, depuis que je suis député européen en 2014. Le premier rapport que nous avons fait sur l'avenir de l'industrie en Europe, c'était de dire qu'il faut que la commission de la concurrence revoie ses règles de la concurrence mondiale. C'est-à-dire qu'il faut juger la pertinence des fusions-acquisitions au regard de la compétition et la concurrence mondiale. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que fera la DG Concurrence sur l'affaire Alstom-Siemens, mais je crains, au regard des règles, que la DG Concurrence dise à cette nouvelle entité, hop, là, vous êtes en position dominante, donc vous devez vous séparer de ça, ici et là. Donc, il faut revoir ça. Si on veut, puisque d'après les gouvernants français nous disent, oui, mais cette naissance de cette nouvelle entité, c'est pour mieux concurrencer le mastodonte chinois qui possède, lui, plus de 50% de marché mondial. Oui, mais attention, il faut que la DG Concurrence valide cette fusion-acquisition, ce qui est loin d'être le cas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, puisqu'on est en plein cas de figure, là, c'est aussi toujours Alstom avec GI à Grenoble, où l'État, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de dire, j'avais des engagements, j'avais une partie du capital de cette entreprise-là, je m'en désengage totalement. C'est pas possible. Là aussi, si on veut vraiment garder des bassins et des champions industriels, je veux dire, rien, contrairement à ce que certains talibans de l'économie vous disent, que Bruxelles l'interdit, c'est faux, archi faux. Bruxelles n'interdit pas à un État d'être actionnaire dans une entreprise, fût-elle dans une économie. La seule chose que vous n'avez pas le droit, c'est de fausser l'économie, de faire du dumping. Ça, on n'avait pas le droit. Mais vous pouvez très bien, demain, si l'entreprise, si l'État français veut, il peut acheter Alstom ou d'autres. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Et puis la troisième des choses, c'est effectivement comment on fait qu'on se dote d'outils de co-décision, c'est-à-dire un peu à l'allemande, hein, où on anticipe et on a l'obligation de négocier et on a l'obligation d'avoir des plans stratégiques des entreprises pluriannuel, pas uniquement d'une année à l'autre, mais pluriannuel, et de manière à ce que les représentants des travailleurs soient aussi partie prenante à part entière sur les choix à faire. Et puis, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne sais plus. Voilà très, très, très brièvement ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, encore une fois, puisqu'on parle de quelles sont les recommandations et ce qu'on aimerait obtenir sur notamment les ordonnances travail actuellement, c'est que non. Je crois que c'est vous qui l'avez dit, M. Gazier, c'est que certains ont choisi l'adaptation par le qualitatif, je ne sais pas comment vous l'avez dit, et d'autres par le coût. Si nous n'anticipons pas, si nous, quand je dis le nous est un collectif, pouvoir public, patronat, organisation syndicale, y compris société civile, parce que la société civile a aussi son mot à dire sur les mutations technologiques, etc. Si nous n'anticipons pas de manière à ce qu'on se fixe nous-mêmes, qu'on construise ensemble un cadre industriel, un cadre démocratique, un cadre de transition écologique, énergétique, etc., ce seront les entreprises qui nous l'imposeront et nous l'imposeront par le coût. C'est de dire, je viens chez vous si la main-d'œuvre est bon marché. Je viens chez vous si je paye moins cher. Je viens chez vous. Et c'est un peu à cela, me semble-t-il, qu'essaye de répondre à tort, de mon point de vue, Emmanuel Macron. Essayer d'attirer les investisseurs par le coup. Et c'est, on le voit partout ailleurs où ils ont essayé, ça a été à chaque fois l'échec.
Voilà. Merci, Edouard.